bonjour et bienvenue pour ce nouveau message de l'église Hillsong France. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter www.hillsong.fr.
Et bonjour Église, c'est un honneur pour moi d'apporter la parole aujourd'hui. J'avais à cœur de commencer avec le mot « sauver », le premier point. Mais avant de faire ça, on prie ensemble? Cool. Seigneur, merci. Merci pour le privilège qu'on a de se rassembler. Merci pour le privilège qu'on a de se retrouver autour de ta parole, Seigneur. Et je prie vraiment que ce message soit pas juste un message, soit pas juste un simple discours humain, Seigneur, mais que ce soit quelque chose qui puisse venir parler à nos cœurs, Seigneur, nous inspirer, Seigneur. Bénis ces mots, bénis cette parole, dans le nom de Jésus. Amen. Une des thématiques qui me tient à cœur depuis quelques temps, l'exil. Et c'est un thème qui me fascine en ce moment. Je ne sais pas si je vais y arriver à y faire justice. C'est un gros thème dans l'Ancien Testament. Mais grosso modo, si vous deviez parcourir l'Ancien Testament, vous verriez à quel point ce sujet de l'exil revient encore et encore. C'est des moments où Israël, le peuple de Dieu, ils deviennent captifs à des peuples étrangers. Et ensuite, ils sont forcés en exil. Parfois, cet exil, c'est qu'ils sont déportés ailleurs. Et parfois, ils sont exilés dans leur propre pays. Mais l'histoire, c'est toujours ça. C'est que Dieu vient, il vient secourir son peuple. Il vient sauver son peuple. Dieu sauve, il restaure et ensuite, il reconstruit. Vous connaissez peut-être l'histoire du premier exil dans la Bible. C'est celui dans le livre d'Exode, où le peuple d'Israël est captif en Égypte. Et donc pendant de nombreuses années, ils sont maltraités, ils sont esclaves, jusqu'à ce que Dieu vienne les sauver au travers de son serviteur Moïse. Ce que je voulais faire, c'était parler d'un autre exil dans la Bible, une autre histoire, et c'est l'histoire de Daniel. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donc Israël était en captivité à Babylone, et Daniel était l'un des exilés du pays de Juda. Et il avait défié l'ordre de ne pas prier aucun autre dieu que le roi, et il a risqué la mort par cet acte de défiance, et on l'a jeté à la fosse au lion. Daniel chapitre 6, verset 28, parlant de Dieu, ça dit qu'il sauve, il délivre, il accomplit des signes extraordinaires et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui, en effet, qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Et si cette histoire me tient particulièrement à cœur aujourd'hui, c'est qu'il y a un tout autre sens à cette histoire qui est parfois beaucoup moins connue. On connaît l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, mais il y a tout un côté à cet exil par lequel Israël est passé qui diffère complètement de l'histoire dans Exode. En effet, quand un empire rendait captif un peuple, l'une des principales priorités était de supprimer l'identité locale. Les Égyptiens, ils l'ont fait en poussant Israël à du travail forcé, en les maltraitant. Mais Babylone l'a fait d'une manière beaucoup plus subtile. Je ne sais pas si ça vous intéresse. En tout cas, moi, ce thème me fascine. J'espère que vous aussi. Mais de manière générale, l'enjeu central pour le peuple de Dieu, pour Israël, peu importe l'exil, c'était cette idée de préserver l'identité juive. L'identité juive, peu importe ce à quoi ils faisaient face, c'était de préserver leur identité alors qu'ils étaient en exil. Je crois que l'enjeu central pour nous en tant que chrétiens, vivant en France, en Suisse, au Luxembourg, partout dans le monde francophone, il est de savoir comment préserver notre identité baptismale dans un monde qui est complètement hostile à cette identité. Une des choses que j'ai sincèrement senti que Dieu veut sauver, c'est justement, il veut secourir notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Donc, si vous prenez des notes, le titre de mon message, c'est « Une église en exil ». Une église en exil. Trois points, parce que tous les bons messages se font en trois points. Trois points sur comment préserver notre identité, comment être l'église en exil. Vous pensez que ça peut nous aider? Yes, cool. Première clé, premier point pour être l'église en exil, pour sauver notre identité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de développer un discernement culturel. Développer un discernement culturel. Comme je l'ai déjà dit, quand un empire rendait captif un autre peuple, l'une de leurs principales priorités était de supprimer l'identité locale. Les empires, ils dominent de force les nations les plus faibles. Souvent, ils le font d'une manière militaire, avec la force. Mais dans le cas de Babylone, ces tactiques s'étaient accompagnées par une stratégie coloniale qui était déployée pour transformer la langue et transformer la culture du peuple conquis. Dans Daniel chapitre 1, c'est notre texte pour ce point, on voit que l'ordre est donné de ramener quelques-uns des hommes les plus sages, les plus intelligents du peuple d'Israël, afin de pouvoir les instruire dans les voies du peuple babylonien. Donc Daniel chapitre 3, versets 1 à 7. Le roi Nabuchodonosor ordonna au chef de son personnel, Akhépénaz, je pense que c'est comme ça que ça se dit, de choisir parmi les Israélites quelques garçons de la famille royale ou de famille noble. Ces jeunes gens ne devaient présenter aucun défaut physique, avoir une belle apparence et être remplis de sagesse, de connaissances et de discernement, afin d'être capables de servir le roi dans son palais. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi prescrivit qu'on leur fournisse chaque jour la nourriture et le vin de la table royale et qu'on les instruise pendant 3 ans. À la fin de cette période, ils entreraient au service du roi. Parmi les Juifs qui furent choisis se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel royal leur donna de nouveaux noms. Daniel reçut le nom de Belteshazzar, Anania celui de Shadrach, Michaël celui de Meshach et Azaria celui d'Abed-Nego. 3 choses qui ressortent dans ce passage. 3 choses qui ressortent par rapport à la culture babylonienne. Au verset 4, on voit qu'on leur enseigne la littérature et la langue des Babyloniens. Ce que ça représente ici, c'est une nouvelle éducation, une nouvelle manière de voir le monde. Au verset 5, on leur fournit chaque jour la nourriture et le vin de la table royale. Et vous savez, quand on parle du jeûne de Daniel, on parle des légumes. Et il ne s'agit pas juste du fait que c'était de la viande et que c'était de la nourriture confortable. Mais en fait, c'était le fait que c'était de la nourriture qui était considérée impure selon les coutumes juives. Donc c'était pour Israël, pour Daniel et ses compagnons, c'était une occasion de chute. Et au verset 7, on voit qu'on leur a donné de nouveaux noms. Donc une nouvelle identité. On les a renommés. Leur nom avait une part de Dieu. Chacun de leurs noms parlait du Dieu d'Israël, mais les nouveaux noms qui leur étaient donnés parlaient du Dieu des dieux babyloniens. Et donc c'est facile de lire l'histoire de Daniel, lire l'histoire de ses amis qui étaient lancés dans le feu, de voir l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions et de passer à côté du pouvoir endoctrinant de la culture babylonienne. Babylone, dans la Bible, s'est présentée comme une culture qui est contraire au plan de Dieu. Une société qui se glorifie, mais dans son orgueil, sa puissance, son prestige et ses plaisirs. Je lisais un livre récemment qui décrivait notre monde moderne comme une Babylone numérique. Un monde où l'orgueil et la promesse de la puissance, du prestige, du plaisir est accessible au clic d'une souris. Et c'est pourquoi il est important pour nous de reconnaître la culture qui nous entoure. Ce même livre disait que beaucoup de parents, beaucoup de pasteurs préparent de jeunes chrétiens pour Jérusalem, pour un monde où Dieu est au centre, en les gardant protégés, alors que c'est un monde dans lequel on n'habite plus. Et il faut reconnaître que nous ne sommes plus à Jérusalem, mais nous sommes à Babylone. Et avec ma femme récemment, on était au magasin parce qu'on vient d'acheter un appartement et on se prépare à bientôt déménager. Et une des choses qu'on regardait, c'est les éléments de décoration. Et avant de me marier, j'ai vécu en coloc avec plusieurs gars, donc le concept de décorer un appart, c'est quelque chose de très nouveau pour moi. Mais je me souviens qu'on regardait des abat-jours. Et c'est incroyable parce que le moment où j'ai levé les yeux pour remarquer ces abat-jours, j'ai remarqué qu'il y en avait plein dans le magasin. Il y en avait des dizaines et des dizaines suspendus de partout. Et j'avais jamais remarqué ça dans les maisons où je vais. Et maintenant, c'est fou parce que depuis que j'ai pris conscience que ces choses existent, maintenant, je les vois partout. Je les vois partout. Et ça me fait penser au décor dans une pièce de théâtre. Vous savez, le décor, on pense souvent que c'est secondaire au jeu d'acteur. On pense que c'est secondaire à ce qui se passe sur la scène. C'est secondaire à l'action qui a lieu. Et on pense que le décor, c'est juste derrière. Mais la réalité, c'est que dans nos vies, c'est pas comme ça. Le décor, donc si on pense à notre culture, c'est pas juste secondaire, mais c'est plutôt comme un personnage qui joue dans notre histoire. Et tout comme Daniel qui a refusé de manger les repas à la table royale, on doit reconnaître que le monde qui nous entoure fait partie de ce qui nous façonne. Et il faut savoir tracer une ligne dans le sable parfois. Dans Romains 12, verset 2, c'est un verset que j'aime énormément. Ça dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Et dans la traduction du message, la paraphrase en anglais, ça dit « Ne devenez pas si bien ajusté à votre culture que vous vous y intégrez sans même y penser. » Ne devenez pas si bien ajusté à votre culture. J'aime ça. Cultiver la foi en exil, ça implique de comprendre que nous vivons à Babylone, mais avec la confiance que Jésus est quand même Seigneur. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous savons que Jésus va revenir un jour et nous attendons ce jour avec impatience. Mais en attendant, nous devons avoir un plan pour grandir en tant que disciples ici à Babylone. Daniel et ses amis, ils ont pu naviguer cette culture qui était loin de Dieu parce qu'ils avaient une révélation de qui Dieu est réellement. Vous savez, une église en exil, un peuple en exil est prône à se prosterner si leur connaissance de Dieu est limitée. Et donc, si je reviens à cette idée de cette Babylone numérique dans laquelle on vit, et encore plus dans une saison de pandémie comme celle-ci où on consomme du contenu numérique, mais jour après jour après jour, voici quelques questions que je nous invite peut-être à nous poser pour reconnaître la culture qui nous entoure. Peut-être se poser la question, mais derrière ce film, quelle est l'idée que l'on essaie de m'inculquer? Derrière cette pub, quelle est l'identité que l'on essaie peut-être de me vendre? Derrière ces vêtements, qui suis-je réellement? Derrière mon écran, est-ce que je suis en train d'être distrait de la mission que Dieu me donne? Et derrière mon confort, derrière les choses confortables, où est Dieu dans le décor? Au milieu de l'exil, je crois sincèrement que Dieu veut sauver notre identité en tant que ses enfants. Amen. Amen. Donc ça, c'était mon premier point. Le deuxième point pour préserver notre identité alors que nous sommes cette église en exil, c'est de reconnaître l'importance de la communauté. Au chapitre 2, donc si on passe au chapitre 2 dans l'histoire de Daniel, on tombe sur cette histoire que vous connaissez peut-être. C'est l'histoire où le roi de Babylone, le roi Nabuchodonosor, il fait un rêve qui le tourmente. Et il demande en fait à tous les sages, tous les magiciens, les sorciers, les astrologues de son royaume de non seulement lui révéler l'interprétation du rêve, mais il leur demande de lui révéler le rêve en lui-même. Et ça, c'était commun de demander l'interprétation de rêve, mais c'était du jamais vu de deviner le rêve en lui-même. Et il était sérieux. Si on lit au verset 5, ça dit « Le roi, il répondit aux astrologues, « Voici ma décision. Si vous ne me révélez pas le rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en tas d'ordures. » Il était un peu violent. Et donc, si on regarde ça, on voit que c'est la première situation à laquelle Daniel fait face où il a besoin d'être sauvé. Il a besoin d'être secouru. Littéralement, sa vie est en danger. S'il n'arrive pas à révéler le rêve ni l'interprétation, lui et tous les autres sages du royaume vont être mis à mort. Et j'aime son réflexe. Si on lit juste un peu plus tard au verset 17 et 18, voici ce qu'il est écrit. « Daniel rentra ensuite chez lui et il exposa la situation à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Il sait qu'il a besoin de soutien. Il sait que dans tout ce pays, il n'y a probablement que ses trois amis sur qui il peut compter pour prier que Dieu intervienne et fasse un miracle. Je suis originaire du Canada, donc bien sûr, je suis citoyen français maintenant depuis plus d'un an, donc très content pour ça, mais c'est du sirop d'érable pur qui coule dans mes veines, ça c'est clair. Et il y a un phénomène incroyable que je remarque, et je pense que mes amis expatriés, vous allez comprendre, mais c'est ce moment où, quand on est en France, où on est dans le pays où on vit, et on rencontre quelqu'un d'autre qui vient de notre pays. C'est ma réaction, tu sais, je rencontre quelqu'un qui vient du Canada, c'est « Hey, tu viens du Canada? Est-ce que tu sais où tu peux manger une poutine à Paris? Tu connais la maison de la poutine? Tu connais Frites à l'or à Lyon? Moi aussi, ça me manque les chips au ketchup. Voilà, tu vois, il y a toutes ces choses. Le Tim Hortons, ça te manque toi aussi? Il y en a qui connaissent le Tim Hortons. Et c'est drôle parce que on fait ça de cette façon-là, mais genre, je m'imaginerais jamais être en France et aller voir un de mes amis français et lui dire oh, « T'as déjà goûté un pain au chocolat? C'est un truc de ouf, t'as déjà goûté au comté, c'est trop bon, non ?» Genre, c'est un phénomène de connexion humaine qui a lieu quand on retrouve quelque chose de familier dans un monde qui nous est étranger. C'est un moment où on réalise qu'en fait, on fait partie de la minorité et on cherche à s'accrocher à quelque chose que nous avons en commun. Et c'est pareil pour Daniel. C'est une histoire un peu drôle, mais dans un contexte plus sérieux, c'est pareil pour Daniel, alors qu'il était en exil. Et c'est pareil pour nous en tant que chrétiens. Il suffit de mettre un pied dehors pour comprendre qu'en réalité, nous sommes la minorité. Nous ne sommes pas à Jérusalem, nous sommes à Babylone. Et il suffit de regarder les panneaux publicitaires dehors pour s'en rendre compte. Il suffit peut-être d'écouter les gens dans la rue parler pour comprendre que nous faisons partie d'un royaume qui est à contre-courant. Qu'est-ce qu'un message de 30 minutes dans une semaine de 168 heures? C'est une goutte d'eau dans l'océan. Et je pense que l'une des choses qui est la plus regrettable dans notre génération, c'est cette notion de penser que c'est ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu, c'est moi et lui, ma relation personnelle avec Dieu. Et bien sûr, on a une relation personnelle avec Dieu, mais cette relation, elle doit se vivre en communauté. Elle doit se vivre en communauté. Je pourrais vous citer Actes chapitre 2, verset 46, qui parle du fait que l'Église se retrouvait tous les jours. Ils partageaient ces moments ensemble. Je pourrais vous citer Hébreux 6, verset 25, qui parle de ne pas délaisser le fait de se retrouver. Ou avec l'équipe créative, en fait, en ce moment, on est en train d'étudier les proverbes dans nos Creative Cruise. Et je pourrais vous citer, du coup, le proverbe peut-être 17, verset 17, qui dit qu'un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est là pour partager les épreuves. J'ai pas le temps de détailler ça à fond, mais la communauté, c'est au cœur même de notre foi en tant que chrétien. C'est un thème central, c'est un thème central dans la Bible et c'est un thème central à notre foi. Les choses que l'on peut apprendre dans un contexte de groupe, les choses que l'on peut apprendre quand on écoute un message, aussi bien soit-elle, ça ne suffit pas et ce n'est pas la même chose que ce qu'on peut apprendre dans un contexte plus petit, quand on se retrouve en petit groupe ou dans un salon avec quelques amis. Nous avons quasiment toute la connaissance du monde à portée de main. Et pourtant, ce dont nous avons le plus besoin, c'est la sagesse. C'est la sagesse. La connaissance et la sagesse sont deux choses différentes. Nous avons besoin de sagesse pour savoir comment naviguer ce monde qui nous entoure. Nous avons besoin de sagesse pour savoir quel est notre rôle en tant que chrétiens vivant dans le 21e siècle. Nous avons besoin de sagesse pour savoir comment préserver, comment sauver notre identité dans un monde qui cherche sans cesse à nous définir et à placer ses étiquettes sur nos vies. Et cette sagesse, elle s'acquiert en communauté. Il y a tellement de richesses dans la communauté de l'Église. N'est-ce pas incroyable que peu importe notre âge, peu importe notre arrière-plan, peu importe nos différences, cette chose que nous avons en commun en tant que chrétiens, c'est cette relation que nous avons avec Jésus. Si on veut préserver notre identité en exil, on ne peut pas le faire seul. On fait partie de la minorité et on doit réaliser l'importance de la communauté. Amen. Amen. Et si je me fie au nombre de pages qui me restent, je pense que notre temps est quasiment écoulé. Mais je vais vous donner juste un dernier point. J'ai essayé d'y aller rapidement, mais notre troisième point, une troisième clé. On a parlé de reconnaître la culture qui nous entoure. La deuxième, c'était de reconnaître l'importance de la communauté. Troisième manière de préserver notre identité alors que nous sommes l'Église en exil, c'est de pratiquer des habitudes qui sont peu pratiques. Donc pratiquer des habitudes qui sont peu pratiques. Dernière histoire dans la vie de Daniel, et c'est au chapitre 6. Et donc, c'est plusieurs années plus tard, le roi du pays, il a changé. Donc maintenant, c'est le roi Darius. Mais suite à l'interprétation du rêve qu'il avait donné dès le chapitre 2, on voit que Daniel, il a gravi les échelons. Daniel, maintenant, il est un des hommes les plus sages dans le pays. Il avait même été nommé un des trois surintendants au-dessus de tous les gouverneurs dans tout Babylone. Et la Bible nous dit qu'il surpassait même les autres surintendants. Et si on tourne ensemble au chapitre 6, on va lire à partir du verset 4. Et il est écrit qu'il surpassait les autres surintendants et tous les satrapes par l'esprit exceptionnel qu'il avait en lui, si bien que le roi projetait de lui confier la responsabilité du royaume tout entier. Combien d'entre nous savons que ça devait peut-être pas plaire à d'autres personnes. Donc voilà ce qui arrive, c'est que les autres surintendants, au verset 5, et les satrapes cherchèrent à prendre Daniel en faute dans les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune faute ni aucun manquement, car il était parfaitement honnête. Aucune négligence ni manquement ne purent lui être reprochés. Ces hommes se dirent donc, nous n'aurons aucun motif pour accuser Daniel, à moins de trouver quelque chose en relation avec la loi de son Dieu. Donc, si on lit un peu la suite de l'histoire, on voit qu'ils n'arrivent pas à blâmer Daniel pour quoi que ce soit. Il est irréprochable. Déjà, j'aime ça dans la vie de Daniel. J'aime penser qu'il était irréprochable, qu'il avait une conduite, mais devant Dieu, devant les hommes qui étaient purs. Mais du coup, ce qui se passe dans l'histoire, c'est que pour lui tendre un piège, les autres surintendants, les autres gouverneurs, ils font passer une loi. Ils vont voir le roi et disent au roi, établit une loi qui empêche pendant 30 jours, si je ne me trompe pas, pendant 30 jours à toute personne de prier un autre Dieu que toi, le roi. Et le roi, ben voilà, il dit, bon, ça me semble une bonne idée. Donc, il établit cette loi. Et ce qui se passe, c'est que la conséquence allait être d'être jeté à la fosse aux lions si quelqu'un priait un autre roi. Et la réaction de Daniel, elle est remarquable. Juste après, au verset 11, ça dit que lorsque Daniel apprit qu'un tel acte avait été signé, il regagna sa maison. À l'étage supérieur, en pleine vue de tout le monde, il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. Et c'est là que 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Et voici la partie que j'aime, ça dit, il le fit comme d'habitude. Il le fit comme d'habitude. Je sais pas vous, mais moi, je trouve ça courageux. Je trouve ça courageux parce que quand j'étais plus jeune, j'avais tellement la honte quand on allait au restaurant, par exemple. C'était une chose tellement simple, mais mes parents voulaient qu'on prie avant de manger le repas. Donc on est au restaurant, à la vue de tout le monde, et inévitablement, c'était toujours ce qui se passait. C'était que voilà, l'assiette arrivait, le plat arrivait, on est prêt à manger, mes parents, on va prier ensemble. Et inévitablement, la serveuse arrive et elle propose de remplir nos verres d'eau, elle nous demande si tout se passe bien. Et on est toujours là, les yeux fermés, moi toujours avec un œil ouvert pour voir ce qui se passe autour. Et j'étais « Ah !» Tellement honte. Et parfois, on pense que c'est étrange ou que c'est un peu extrême d'aller prier peut-être pour quelqu'un dans la rue ou peut-être d'aller aider un voisin de palier, de faire le choix de ne pas regarder tel ou tel film ou de ne pas se soumettre à telle ou telle conversation au travail, peut-être de ne pas regarder tel ou tel contenu sur Internet. On pense qu'en tant que chrétien, c'est extrême, mais en tant que chrétien, nous avons l'obligation, nous avons l'opportunité d'être sur le bon côté de l'extrême. Je veux dire, être chrétien, c'est bizarre de toute façon. Autant se le dire, être chrétien, c'est bizarre. Si on a peur d'être bizarre, c'est trop tard. Je veux dire, c'est trop tard. Littéralement, on croit dans un homme qui est né d'une vierge, qui a multiplié des pains et des poissons, qui a guéri un aveugle en faisant de la boue avec sa salive, pour ensuite mourir cloué sur une croix et ressuscité d'entre les morts. Je veux dire, c'est trop tard. Je veux dire, de base, si on croit ça, si on croit à l'Évangile, si on croit au message de l'Évangile, c'est déjà tellement à contre-courant de ce que le monde croit. Ça a tellement juste pas de sens en lui-même. Donc gardons notre foi bizarre, mais le bon genre de bizarre. Pas le genre de bizarre qui donne envie aux gens de courir dans l'autre direction quand ils nous voient, mais le genre de bizarre qui interpelle. Le genre de bizarre qui fait dire aux gens, il est différent celui-là, mais je veux en savoir plus. Et donc, ne sous-estimons pas la puissance subtile de ce monde de nous convertir, de nous assimiler à sa façon de penser. Vous savez, pourquoi pas prendre une pause d'Instagram par moment? Pourquoi pas prendre une pause des séries sur Netflix? Pourquoi pas prendre une pause des jeux vidéo ou du contenu incessant qu'on peut trouver sur YouTube? Arrêtons de trouver des moyens de passer le temps. Vous savez, juste cette expression « passer le temps », elle devrait nous inquiéter. Le temps, c'est notre ressource, c'est notre plus grande ressource et on cherche à passer le temps. Et parfois, c'est compliqué, il n'y a pas 10 000 choses à faire et on cherche à passer le temps, mais c'est notre ressource la plus précieuse. Et si je peux juste nous citer un psaume que j'aime tellement, c'est le psaume 90, verset 12. Et voici ce qu'il est écrit, ça dit « Fais-nous comprendre », s'adressant à Dieu, « Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et nous aurons un cœur sage. » Et donc, fais-nous comprendre, Seigneur, que nos jours sont comptés, que chaque jour qu'on a sur terre est un jour pour servir le monde autour de nous, un jour pour partager l'Évangile, un jour pour faire connaître au monde, un monde qui est dans le besoin de lui faire connaître la vérité de l'amour de notre Dieu. Et donc, mon point, c'était ça, c'était de pratiquer des habitudes qui sont peu pratiques. Je veux dire, littéralement, en tant que chrétien, on se doit de pratiquer des habitudes qui sont peu pratiques. Soyons engagés dans notre vie de prière, même quand on préférerait peut-être faire autre chose. Soyons engagés à aimer le monde qui est autour de nous, même quand ça nous coûte. Soyons engagés dans la lecture de notre Bible, même quand ça implique de se lever plus tôt le matin. Posons notre téléphone. Je lisais l'autre jour, il y a quelqu'un qui disait « Il faudrait que ton téléphone se lève après toi et qu'il se couche avant toi. » C'est tellement une bonne pratique. Et je veux dire, encore une fois, je me prêche à moi-même parce que moi, coupable, je me lève et mon téléphone, c'est la première chose que je regarde. Mais nous devons pratiquer des habitudes, nous devons éteindre le bruit pour entendre ce que Dieu a à nous dire et comment être cette église en exil qui fait peut-être partie de la minorité. Mais on connaît la fin de l'histoire, on sait qu'ultimement, Dieu a la victoire, le royaume de Dieu l'emporte et on veut faire partie de ça dans le nom de Jésus. Amen. J'espère que ça vous a encouragé, j'espère que ça vous a parlé. Vous savez, la Bible nous dit dans Romains 6, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption qui est en Jésus-Christ, le salut, il veut nous sauver. Ça, c'est le premier pas du message de l'Évangile. C'est reconnaître que je suis pécheur. Ça veut dire que mon péché me sépare de qui Dieu est. Il me sépare de ce Dieu parfait. Mais la bonne nouvelle en Jésus-Christ, vraiment en Jésus-Christ, pas par mes propres œuvres, pas par les choses que je peux faire de bien, pas par mes propres mérites, mais par la foi en Jésus-Christ, je suis restauré. Je suis sauvé par le moyen de sa grâce. Donc, si tu veux faire cette prière, je vais t'inviter à prier avec moi. Donc, répète ces simples paroles. Père éternel, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir à la croix et ressusciter d'entre les morts pour me pardonner de tous mes péchés. Aujourd'hui, je t'invite dans ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur et aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen.
Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter www.hillsong.fr.